Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, vous montrer chaque jour que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur le camping. De plus en plus de Français choisissent de passer leurs vacances en pleine nature. Et vous allez voir que même sous la tente, oui, il y a des innovations. La terre battue de Roland Garros, c'est elle qui la fabrique. Supersol est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis s'il y a un Sherlock Holmes sommeil en votre enfant, une solution peut-être pour le réveiller. La boîte en cavale, c'est un jeu enquête envoyé par courrier. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous avez évidemment la parole comme chaque midi. Venez nous dire si vous êtes un adepte du camping ou du camping-car d'ailleurs, Anissa.
Oui, venez nous dire ce que vous avez prévu pour cet été. Ça sera peut-être vos premières vacances en camping-car. Vous avez des questions, vous êtes peut-être inquiet pour ce premier voyage. Venez poser vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. 39-21, c'est le standard, 50 centimes la minute. On lit également vos témoignages et vos réactions sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et vous allez voir que c'est un secteur qui se développe grâce à des acteurs qui ont choisi de s'adapter aux nouveaux modes de consommation des Français, notamment. Pour les accueillir à mes côtés, comme chaque jour elle est là, c'est Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Sylvain Lambert, associé au cabinet PwC. Bonjour Sylvain.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Pour les vacances, il y a ceux qui aiment avoir un séjour tout tracé et puis ceux qui préfèrent se sentir libres d'aller où bon leur semble, au gré de leurs envies et qui optent pour le camping-car. Bonjour Benoît Panel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président et fondateur de Yescapa. Alors, vous vous êtes spécialisé, vous, dans la location de camping-cars et de vannes aménagées entre particuliers. Vous êtes au départ un adepte du camping ou pas du tout ?
Alors, du camping complètement, du camping-car uniquement pendant mon enfance. Et j'ai eu l'occasion de vouloir m'y remettre il y a 8 ans maintenant, de voir que l'offre ne me convenait pas complètement et puis de passer avec ma voiture devant tous ces camping-cars en me disant bah, « celui-ci m'intéresse ». Mais ce n'était pas des camping-cars de loueurs professionnels, c'était des camping-cars détenus par des particuliers, d'où l'idée de permettre de joindre les personnes qui, comme moi, voulaient un véhicule qui ne soit pas standardisé, leur donner accès à ces véhicules-là.
Oui, et puis il y a eu une petite histoire. Vous êtes parti en Grande-Bretagne. Vous aviez l'habitude de camper plutôt avec la tente. Hein,
tout à fait.
Et là, vous vous êtes dit en Grande-Bretagne, c'est quand même un peu risqué de partir avec la tente. Il faudrait plutôt que je m'intéresse à un camping-car. Et vous avez essayé à l'époque, en Grande-Bretagne, d'en louer un. C'était compliqué.
Alors, c'était en tout cas onéreux via des loueurs conventionnels. Et j'ai du coup essayé de trouver un propriétaire anglais qui pourrait me mettre à disposition son propre véhicule via des forums de camping-caristes anglais, et ça n'a pas du tout fonctionné.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que ça semblait une demande un peu étrange qu'un Français leur demande ceci. Je me suis donc rabattu sur Le Bon Coin en me disant « je n'ai qu'à partir de France ». Et effectivement, vous aviez déjà 1200 personnes qui faisaient la démarche de proposer leur véhicule. J'en appelle 30, aucun ne me dit oui. Tous avec leurs propres raisons, mais un point commun: de toute façon, mon assurance ne garantira pas la location. Il faut donc que je sélectionne très précautionneusement les personnes à qui je vais le confier.
Et donc, vous vous êtes dit, eh ben moi, je vais le faire ce travail. C'est-à-dire, je vais jouer ce rôle de filtre. Je vais faire le Airbnb du camping-car.
C'est bien ça.
Donc, aujourd'hui, ça fonctionne comment ? Vous avez contacté les propriétaires au départ. Vous avez fait en sorte qu'ils vous fassent confiance, qu'ils vous confient la location de leur camping-car ?
Alors, notamment, en prenant la position de tiers de confiance, à la fois pour le locataire qui, lui, va miser ses vacances, hein, nous faire confiance pour ses vacances, et c'est précieux pour tout le monde, et pour le propriétaire qui, lui, va confier son véhicule à un inconnu, et chacun a besoin d'être assuré.
Bien sûr.
Donc, on vérifie l'identité des uns, l'identité des autres, on fournit une assurance qui, cette fois, a été dessinée spécialement pour couvrir les risques de la location. Et à partir de ce moment-là, donc, les choses se font et ça se passe plutôt bien, puisqu'on a un peu plus de 7000 véhicules disponibles sur le site à la location.
Ouais, en 2012, quand vous vous êtes lancé, les premières locations ont été un peu difficiles. Ce n'était pas forcément très rentable à l'époque et pourtant, vous avez persisté.
Tout à fait, parce qu'on avait fait une étude de marché en fait, avant de se lancer. Et en interrogeant 160 propriétaires, on a vu deux personnes qui nous avaient dit oui et 158 non, jamais de la vie. Donc un peu décourageant. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on allait à la question d'après, et pourquoi jamais de la vie ? Et là, effectivement, bah, la question de l'assurance venait, la question... Donc on a pu voir toutes les barrières et proposer des services pour lever ces freins-là, ce qui fait que bah, maintenant, on reposerait la question et les taux de réponse positive seraient bien différents.
Ouais, ce qui fait aussi que vous êtes devenu le premier loueur de camping-car. 35 000 locations prévues, je crois, cette année, c'est bien ça ?
C'est tout à fait ça, oui.
Et votre équipe, deux au départ, et puis 35 et même un peu plus pendant l'été, hein, la grosse période pour les camping-cars, une quarantaine de personnes. Vous êtes aussi de plus en plus pointu, pas seulement de la mise en contact, vous essayez de développer d'autres projets. Je crois que vous avez lancé Yescapa Occasion l'année dernière. Ça, c'était justement pour permettre la vente de camping-cars d'occasion.
La sécurisation de l'achat et de la vente,
oui.
Parce que là encore... On sait ce qu'on achète, on sait que ça coûte cher, mais on ne connaît pas l'état pratique de la mécanique et autres, et c'est là-dessus qu'on essaie d'apporter une valeur ajoutée.
On le voit avec les chiffres que je viens de donner, Elisabeth, le marché des camping-cars se porte vraiment bien.
On assiste à un boom, hein, littéralement. Leur immatriculation ont progressé de 13,73% précisément en 2018. Les ventes ont progressé, je parle des ventes, de 24% en deux ans, et on estime à 400 000 le nombre de camping-caristes en France. Les vannes aménagées représentent 30% des véhicules neufs immatriculés. Alors pour les voitures d'occasion, on passe peut-être par votre plateforme parce que là, on assiste à un léger repli. Et parmi les fabricants de camping-cars, les Français aussi se portent bien. Le premier d'entre eux, Trigano, qui conserve un peu plus de 40% des parts de marché.
Que dit notre coach de cette aventure Yescapa ?
Alors je me dis qu'il y a peut-être un frein des deux côtés, et la question c'est comment vous le levez. C'est un camping-car, c'est pas une voiture, c'est plus gros, c'est un petit camion, donc je voudrais louer, j'aimerais bien, mais j'ai jamais fait, donc est-ce que je vais être capable de le conduire ? Et puis je suis loueur, est-ce que le gars qui va louer, ou la personne, la famille qui va louer, va être capable de conduire ? Donc est-ce que vous accompagnez les deux parties pour les rassurer quant à la mise en capacité de la personne qui va conduire le camping-car ? Je vais avoir le gabarit, je sais comment ça marche, un truc qui est plus gros qu'une voiture.
Alors c'est bien une question qui est, à laquelle on a été confronté en lançant le service. Et oui, tout à fait. Donc comment on procède ? Bah, par exemple, donc, nous, maîtriser la sinistralité, c'est crucial pour nous. Comment on procède ? Au fur et à mesure du temps, bah, on a amélioré nos process. Donc déjà, on transmet un guide du locataire, un guide du propriétaire pour que l'un et l'autre soient au courant des bonnes pratiques. Et puis, on va demander pendant la mise en main du véhicule à ce qu'il y ait des manœuvres qui soient faites conjointement entre le voyageur et le propriétaire pour avoir les bonnes astuces. Et également, trois jours avant le départ, on va vous adresser une vidéo où on va recenser les précautions à prendre pour les 10 cas les plus fréquents d'accrochage. Donc, une chose toute bête qu'on vous rappelle dans cette vidéo, si vous faites une marche arrière, bah demandez à votre passager d'aller voir pour vous faire signe et éviter ainsi de rater la petite branche qui est derrière et qui pourrait vous faire une griffure.
Vous êtes leader aujourd'hui sur le marché européen, Yescapa. Vous avez racheté votre concurrent principal en France et puis je crois qu'il y a du nouveau aussi en Espagne, c'est ça ?
Alors oui, tout à fait. Depuis la semaine dernière, on a uni nos forces avec Area Van, qui était notre concurrent historique sur l'Espagne. Et du coup, on va continuer l'aventure ensemble, puisque nous, on disposait de 1000 véhicules en Espagne, 1000 propriétaires qui nous font confiance. Et Area Van, 575. Donc vous voyez que la capacité en Espagne va bien grossir. Quoi, c'est ça.
Elisabeth, vous avez trouvé d'autres entreprises hein, qui, elles aussi, travaillent justement sur ce marché du camping-car.
Oui, hein, des entreprises françaises. Hein, Wikicampers, c'est une plateforme de location de camping-car. C'est une start-up basque qui se porte très bien. Vous avez aussi une jeune entreprise tarnaise, 100 Miles, qui fait revivre la fameuse teardrop américaine des années 30. Vous savez, la fameuse caravane des années 30, ouais. Assez massive, hein, qu'on voit dans certaines séries américaines. Eux, ils ont lancé une nouvelle version qui s'appelle My Drop. Et vous avez Park and View. C'est une sorte de camping-car et dans le pré. Vous avez un camping-car, qu'il soit loué ou acheté, et vous pouvez faire étape avec votre camping-car chez des agriculteurs. La réservation et le paiement de l'emplacement passent par une appli.
On reste dehors aujourd'hui et on va continuer à parler camping et camping-car sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et si vous n'êtes pas vraiment doué comme moi pour monter la tente, en voilà une qui va sûrement retenir votre attention. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui jusqu'à 14h, on prépare les vacances de cet été et on va au camping. Vous êtes amoureux du camping? Eh bien, sachez que dans ce domaine, il y a beaucoup de nouveautés. Ce sont les invités de Raphaël Duchemin qui vous les présentent et vous pouvez leur poser des questions au 3921, le standard d'Europe 1 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Vous êtes peut-être du genre à aimer dormir à la belle étoile, à partir le nez au vent sur les sentiers de randonnée, mais les balades en pleine nature, c'est bien si on a un abri en cas de problème et monter une tente. Tout le monde n'est pas forcément rompu à l'exercice. Bonjour Nicolas Rodet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé un modèle spécial, il est là, il est avec nous. Si vous êtes sur europe1.fr, vous pouvez le voir. C'est une tente modulable, tout en un, au cas où. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez baptisé votre entreprise Cas où. Vous êtes fan, vous, de randonnée, je crois. Et c'est un jour où vous êtes trouvé totalement démuni que vous avez eu l'idée, finalement, de créer un prototype.
Bah, tout à fait. En fait, je suis fan de randonnée, mais je crois que le moment que je préfère, c'est le moment où je m'arrête, le moment où je fais la pause. Et dans ces moments-là, généralement, j'ai un petit hamac. Mais quand il n'y a pas deux arbres, mon petit hamac, il n'est d'aucune utilité. Donc j'ai eu l'idée d'imaginer un produit, un hamac qui se transformerait en abri, qui se transformerait, pourquoi pas, en taux de soleil et pourquoi pas aller jusqu'à la tente. Et c'est ce qu'on a fait.
C'est-à-dire que quand on le déplie, et on voit les images hein, de la tente une fois dépliée sur europe1.fr, quand on le déplie, ce petit sac, il peut avoir plusieurs usages.
Exactement. L'idée, c'est qu'avec 3 kilos, vous vous présentez à un endroit dont vous ne connaissez pas la configuration et vous pouvez adapter votre produit à la configuration.
Comment c'est possible? Il y a un double toit, je crois.
Alors, il y a des innovations. Il y a 3 brevets qui ont été déposés. L'idée, c'est que le hamac fait également le toit de la tente, fait également par un système de zip et de connexion, permet d'avoir le taux, le tarp, etc. Donc, c'est tout un système de connexion et de modularité.
Quand vous avez commencé, ça n'était pas du tout votre métier de base, on est bien d'accord.
Effectivement.
Et alors, vous vous êtes dit, il faut que j'aille chercher des savoir-faire. Je crois que grâce à un dispositif qui s'appelle Ardent, vous avez pu travailler avec une couturière. Ça, c'était important.
Exactement. La première chose, d'abord, il faut savoir que je ne l'ai pas fait tout seul.
Mais avec votre fils?
Avec mon fils, évidemment. C'est lui qui a designé, imaginé et qui a été très moteur dans cette innovation. Et il a fallu une couturière pour faire les premiers prototypes. Et donc, le dispositif Ardent, c'est un dispositif qui m'a permis de recruter pour une somme relativement acceptable quand on démarre, puisque nous sommes encore une jeune start-up.
Oui, parce que c'est commercialisé depuis 2 ans, c'est ça, 2017?
Alors, on va dire depuis 1 an et demi, et là, maintenant, depuis peu, dans les magasins Decathlon. Donc, c'est vraiment pour nous une preuve de confiance. Mais on démarre, on reste une start-up. On est encore dans les phases de levée de fonds, dans les phases où on cherche à progresser.
Il y en a une d'ailleurs qui est prévue de levée de fonds bientôt?
Oui, dans 2 semaines.
Bon, vous allez faire quoi justement avec cet argent?
Alors l'idée, c'est d'asseoir notre développement, principalement sur les marchés, aussi bizarre que cela puisse paraître, sur la Chine. Parce que la Chine est un marché émergent, mais également aux États-Unis, au Canada et en Australie. Ce sont des marchés très porteurs.
Vous parlez de la Chine, j'en profite pour dire que vous avez cherché à fabriquer en France au départ. Vous avez dû vous tourner vers la Chine parce que c'est là-bas que vous trouviez la matière première qui était la moins chère hein, et la meilleure finalement. Aujourd'hui, vous essayez de relocaliser en partie la production en France. Vous faites le chemin inverse.
Oui, vous avez raison. Mais en même temps, la Chine, c'est aussi les compétences qu'on est allé chercher, plus que le prix. Parce qu'on a commencé avec la Tunisie. Il y a des compétences, mais il n'y avait pas les compétences du camping.
Sur quoi? Sur la toile de polyester?
Sur la toile et sur la couture. C'est très compliqué de coudre une toile comme celle-ci, qui est extrêmement fine puisqu'il fallait que le produit soit léger.
Que dit notre coach de cette toile, de cette tente plutôt, qui est, je ne sais pas si on peut dire que c'est une tente d'ailleurs, une tente et un hamac en même temps.
Ça a l'air de tout faire. Ben, le réseau de distribution que vous avez évoqué et le mot Chine appellent une question justement. Comment une start-up qui a trouvé ses compétences effectivement qui existent en Chine, parce que beaucoup de ses produits sont fabriqués, gère les problématiques probablement chères au cœur du réseau que vous évoquez, problématiques de droits de l'homme dans la fabrication? Est-ce que vous arrivez à l'adresser? Est-ce que c'est une question qui vous est posée?
Oui, vous avez raison, mais c'est une question qui nous préoccupe tous. Ben, il faut savoir que parmi les 3 associés, on a un associé qui a vécu 5 ans à Shanghai, qui connaît très bien la Chine, qui parle couramment chinois, qui a gardé des contacts amicaux avec beaucoup de gens en Chine. Et évidemment, on a visité. Évidemment, on s'est assuré. Et c'est une obligation. Bon, il faut aussi savoir que l'image qu'on a de la Chine est un peu, souvent, un peu fausse. Elle a évolué, la Chine. Elle a évolué vers des usines qui sont propres, des respects de travail qui sont plus grands. Et donc, c'est facile de trouver des entreprises qui sont de bons partenaires.
Malgré tout, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est votre volonté, c'est d'essayer de rapatrier une partie de la production ici.
Vous avez complètement raison.
Comment vous vous y prenez? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer faire ici qu'on fasse aussi bien, peut-être mieux qu'en Chine?
D'abord, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est qu'on a commencé avec une entreprise française pour le tissu, qui est une entreprise à Lyon, Diatex, qui est spécialisée dans les tissus très techniques. C'est eux qui nous ont aidés à démarrer. Et on aimerait revenir sur ces fondamentaux, c'est-à-dire sur le tissu fabriqué en France et l'assemblage fait en France. C'est un souhait, c'est possible. Mais pour ça, il faut atteindre du volume et il faut atteindre une certaine masse critique de
rentabilité.
D'abord
se développer pour pouvoir revenir et racheter des produits français, des matières premières françaises. Elisabeth, je crois que vous avez trouvé d'autres Français qui se sont lancés justement dans la fabrication de tentes.
Oui, qui se sont un petit peu aussi diversifiés autour de la tente. Vous avez l'entreprise Nate Up qui a commercialisé sa première série de tentes Hussarde dès 2010. C'est une tente pliante qui s'ouvre en un clin d'œil et que l'on installe sur le toit de n'importe quelle voiture. Vous avez Cabanon, là on est dans du très haut de gamme. C'est un fabricant de toiles de tente. C'est l'un des derniers en France et on est sur des campeurs aguerris et qui est même très exigeant.
On reste ensemble et on continue à parler camping aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On a posé sa caravane dans un camping, on cherche le réseau Wi-Fi. Pour ça, un Français s'est lancé sur la réalisation de bornes spéciales. C'est Osmosis. À tout de suite.
On prépare l'été sur Europe 1. La France bouge, le camping aussi bouge. Il innove, il se réinvente. Et si vous avez des questions, si vous comptez camper cet été, eh bien n'hésitez pas, venez nous le dire dès maintenant au 3921. C'est le standard d'Europe 1 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Et on a beau être en pleine nature et vouloir débrancher, même en vacances, au milieu de nulle part, on est encore très nombreux à vouloir rester connectés. Bonjour Gérard Tremblay.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG et cofondateur d'Osmosis. Vous avez, vous, développé les réseaux Wi-Fi multiservices dédiés au camping et aussi aux résidences de vacances en Europe. Vous êtes basé à Montpellier. C'est là que l'aventure commence, hein, j'ai envie de dire. On est en 2005. Vous revenez tout juste de Californie, c'est bien ça?
Je reviens de l'étranger, effectivement, pour effectivement compléter notre entreprise avec de la croissance externe, mais je ne peux pas en dire plus aujourd'hui.
Mais, ah non, mais à l'époque, en 2005,
effectivement.
Oui, aujourd'hui, non, on ne va pas révéler des secrets d'État, dites-moi.
Oui, à l'époque, je revenais de Californie,
effectivement. Bon, et vous êtes ingénieur en physique électronique. Oui. À l'époque, vous vous intéressez déjà de près, forcément, à la technique du Wi-Fi, mais au départ, je crois que vous n'aviez pas forcément l'idée d'en faire quelque chose au camping. C'est un hasard, c'est lors d'un dîner que ça s'est passé.
Tout à fait, c'est-à-dire que je dînais effectivement avec quelqu'un que je connaissais qui dirigeait un camping juste à côté de chez moi. Et il me demandait ce que je voulais faire. Alors, je suis parti de la technologie, qui était la technologie de Wi-Fi maillé, qui était une technologie d'origine militaire, où je me suis dit, cette technologie, on doit pouvoir l'utiliser dans le domaine civil aussi.
Et donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Ah, c'est une technologie qui permet d'avoir comme un maillage, comme une toile d'araignée sur des très grands centres. Même s'il y a une borne qui casse, hop, automatiquement, ça se remaille ensemble sans avoir à intervenir.
Ça se répare.
Oui, ça se répare tout seul. Bon. Donc, c'est très fiable. Voilà. Et aujourd'hui, on a développé en fait l'ensemble de cette technologie suite à cette rencontre avec mon voisin.
Parce qu'il vous a dit, ça m'intéresse, moi, pour la mettre dans mon camping.
Il m'a dit, je souhaiterais le mettre. Alors, je n'étais pas du tout prêt à ça. Et je suis revenu 2-3 jours plus tard avec quelques feuilles. On a commencé à faire cette installation.
Deux, trois bornes au départ,
qui n'étaient pas mes bornes. Hein. J'ai trouvé des trucs. Voilà,
ouais, vous êtes allé les chercher en Hollande.
En Hollande, oui. Et puis il nous a référencé à un autre collègue à Saint-Raphaël pour on a fait un deuxième et un troisième et après on s'est dit on va faire le business plan voilà sur le sujet parce qu'effectivement le camping en France c'est un domaine qui est on est quand même deuxième au monde après les États-Unis.
On est parti de 2005. Vous commencez à vous étendre dans les différents campings. Ça prend du temps, forcément, même s'il y a du bouche à oreille et que ça marche très bien. À partir de quand ça devient véritablement une activité lucrative pour vous, en tout cas rémunératrice?
Alors, dès le début, c'est-à-dire qu'en fait, comme c'était ma deuxième entreprise, j'ai choisi d'avoir un modèle où, en fait, on génère des revenus dès le début, plutôt que de faire des gros investissements et ensuite se dire, au bout de 3-4 ans, d'être profitable. Être profitable, pour nous, ça a toujours été quelque chose d'important pour l'entreprise. Et donc, on a rapidement été profitable depuis
Les bornes, on a dit qu'elles étaient fabriquées au départ en Hollande. Aujourd'hui, elles sont fabriquées en France,
du
côté de Montpellier.
3 ans après la création, on a effectivement déposé 4 brevets européens sur le sujet. Et on fait notre propre fabrication à Montpellier. On a notre petite usine pour fabriquer nos propres bornes de Wi-Fi Maillé.
Que dit le coach?
Le coach, il voudrait comprendre le modèle économique. Oui. Aujourd'hui, j'imagine qu'il a peut-être évolué. C'est-à-dire, est-ce que, j'imagine, le camping paye, mais est-ce que la personne qui est au camping, qui a un emplacement, paye? Enfin, comment se répartit la charge?
Alors, on a deux modèles, À Osmosis, on a deux modèles. Un modèle de partage, où c'est effectivement la personne qui est en vacances qui paye, et on fait un partage de revenus avec le camping, premier modèle. Ou un deuxième modèle qui s'appelle Premium, où effectivement, le camping nous paye un fee et à ce moment-là, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, s'il veut donner gratuitement pour l'endroit où c'est VIP, etc., il fait ce qu'il veut.
Alors, ce qu'on n'a pas précisé, Sylvain, et c'est important, c'est que du coup, la technologie, elle a aussi évolué. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement sur du réseau Wi-Fi, mais on est aussi sur la possibilité, par exemple, avec un bracelet connecté, que
absolument.
Vous portez d'ailleurs, un bracelet connecté qui permet, par exemple, d'ouvrir la porte du mobile home et de faire tout un tas de choses, finalement.
Tout à fait. Osmosis, aujourd'hui, c'est plus un opérateur de services connectés qu'un opérateur Wi-Fi. Donc, on a décidé de se développer beaucoup dans la domotique de ces centres de vacances avec ce bracelet RFID. Donc, de toute façon, les gens, ils ont l'habitude, en fait, en vacances, de mettre un bracelet quand ils arrivent. C'est un identifiant visuel. Avec ce bracelet, ça permet d'ouvrir la porte de son mobilo, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont que des clés métalliques encore, de payer, c'est-à-dire ça fait du cashless, on met 200 euros dessus, je mets 50 euros sur le bracelet de mon fils et on peut payer dans l'ensemble du centre de vacances avec. Et aussi de gérer les transats, puisque les transats, le gros problème des transats, c'est le fait que les gens ils vont mettre une serviette dessus et puis après ils s'en vont, c'est mon transat pour la journée, même si je n'utilise pas, et je m'en vais. Avec ça, ça permet effectivement de gérer de façon à optimiser la ressource de transat.
Vous êtes présent aujourd'hui dans 1600 sites, c'est ça?
1600 sites en Europe, oui, tout à fait.
Oui, 9000, je crois, peu près.
Oui, c'est à peu près ça, oui. Il y a 9000 en France et donc 1600 sites de ces 9000.
La suite, évidemment, c'est le développement encore
en Europe.
Peu plus à
l'étranger. On a fait l'introduction en bourse il y a 2 ans. Donc, introduction en bourse, Osmosis s'est introduit en bourse en 2017 sur Euronext. Ça nous a permis effectivement d'accélérer notre développement à la fois sur les services connectés, à la fois en Europe, où on est présent en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, avec des filiales, et de faire de la croissance externe.
On reste ensemble et on continue à parler camping et nature aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on attend vos questions, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 aujourd'hui. La France bouge dans le secteur du camping. Elle innove, elle évolue, elle se réinvente. Et vous pouvez poser des questions aux invités de Raphaël Duchemin jusqu'à 14h. N'hésitez pas, c'est maintenant que ça se passe. 3921, le standard, 50 centimes la minute. Et Twitter avec le hashtag Europe 1.
Elisabeth Assayag est à mes côtés comme chaque jour. Sylvain Lambert de PwC, notre coach aujourd'hui. Nos invités, Benoît Panel, président et cofondateur de Yescapa, Nicolas Rodet, PDG et cofondateur de Kaou, et Gérard Tremblay, PDG et cofondateur d'Osmosis. Voilà pour les présentations. Je crois, Elisabeth, qu'il serait temps de faire un petit point sur le marché du camping, parce qu'on a parlé du camping-car, mais on n'a pas dit que le marché du camping, lui, se porte très bien.
Et ça va très très bien, puisque la France est le premier pays européen en matière de ce qu'on appelle d'hôtellerie en plein air, donc de camping. Et un camping européen sur 3, il est français. L'évolution du chiffre d'affaires dans le secteur est spectaculaire. Pour vous donner une idée, il y a 20 ans, le camping générait 800 millions d'euros par an. Aujourd'hui, il atteint 2,5 milliards d'euros. Jusque dans les années 80, on aimait le camping parce qu'on y avait été initié dès l'enfance. Aujourd'hui, le camping est monté en gamme et on peut avoir envie de faire du camping sans pour autant en avoir fait quand on était plus jeune. Ça devient un choix de vacances.
un choix de vacances. Sylvain, vous pensez, vous, que c'est un secteur où il y a encore beaucoup de choses à inventer quand on voit les différents parcours qui sont avec nous aujourd'hui?
Ben, on voit déjà, en regardant le passé, que le camping a énormément évolué. L'apparition des mobil-homes par rapport aux tentes, l'apparition de nouvelles formes de tentes, l'arrivée de la technologie. Donc oui, c'est un secteur qui devrait beaucoup se développer, puisqu'on a un rapport à la nature qui est beaucoup plus fort en camping que dans du bâti. Et d'ailleurs, les trois options, que ce soit le ce qui bouge autour du camping-car, c'est une prise directe, la volonté de s'arrêter où on veut. Donc oui, c'est un secteur qui devrait vraiment beaucoup bouger encore.
C'est quelque chose que vous sentez les uns et les autres. Gérard Tremblay, vous nous disiez, voilà, on est, nous, en France, parmi les leaders sur ce marché-là. Aujourd'hui, quelle est la suite pour vous? Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer?
On le sent clairement en France, c'est-à-dire qu'en étant présent dans les différents pays européens, on sent réellement la différence, que la France est très leader sur le sujet, avec des campings 5 étoiles dans lesquels il y a une pléthore de services, de massages, de tout ça. C'est vraiment très, 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 très fourni en termes de services. Et on sent qu'effectivement, ce service, la profitabilité de ces campings qui existent en général, fait que les services vont encore se développer de plus en plus, quoi, avec de la domotique, avec des services plus, qui est pour offrir à la clientèle encore plus de confort.
Benoît Panel, la suite, c'est quoi pour vous, pour Yescapa? Je vous entendais parler de peut-être une entrée en bourse, qui sait, compte tenu de votre développement.
Non, je me renseignais auprès de mon voisin sur les modalités.
Je pousse, hein, vous avez vu comme je suis. Hein.
Non, par contre, oui, je pense qu'on... Enfin, le secteur est promis un bel avenir.
Moment, hein, c'est peut-être le moment, en tout cas.
On verra chaque chose. Mais tout le monde a envie de... Les citadins, en tout cas, ont besoin de respirer. On a tous besoin de se connecter à la nature de temps en temps. Et il n'y a qu'à voir le boom de la randonnée. Ça fait toujours du bien quand on est citadin que d'avoir un horizon ouvert devant soi. Et ça ne pourra que durer.
Nicolas Rodet, vous êtes en train de vous développer. Et on l'a bien compris, l'arrivée sur le marché de Décathlon, c'est quelque chose d'important pour vous parce que ça va donner accès finalement au grand public. La suite, c'est quoi? C'est aussi aller à l'international?
Évidemment, la suite, c'est d'aller à l'international. C'est... de surfer sur la vague, le produit plaît beaucoup, le produit est innovant. Oui, on pense que notre avenir, il est à l'international et sur les autres pays.
Sylvain?
Oui, moi j'ai une question en termes de, est-ce que vous avez envisagé, c'est peut-être déjà le cas, donc pardonnez-moi, donc là vous êtes tourné vers les campings, mais il y a des tas d'espaces que gèrent par exemple les collectivités locales, où on voit aujourd'hui, alors heureusement ou malheureusement, que la connectivité est importante, hein, je pense à des parcs, je pense plutôt à des régions rurales. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes, par exemple, équiper un grand parc, un grand zoo, une grande zone de safari de ces sujets-là, ou vous êtes centré sur le camping uniquement?
Alors, on est centré uniquement sur les centres touristiques, c'est-à-dire camping, résidence de vacances.
D'accord.
Pourquoi? Parce que tous nos services connectés dont j'ai parlé tout à l'heure s'appliquent pour ça. C'est-à-dire que la société Osmodis, qui a à peu près 20% de croissance annuelle depuis son origine, dans 10 ans, cette société, ça sera plus une société Wi-Fi. Ça sera vraiment une société de services connectés.
Merci messieurs d'avoir été avec nous pour nous emmener camper aujourd'hui sur Europe 1 et bon courage pour la suite de vos aventures.
Merci beaucoup.
Et il est 13h35.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On reste ensemble et on va découvrir qui se cache derrière la terre battue de Roland Garros. C'est Supersol et c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, chaque jour, vous nous faites découvrir l'entreprise française qui va bien. Et aujourd'hui, elle fait la une de l'actualité, je crois qu'on peut le dire, l'actualité sportive, évidemment.
Et oui, parce que cette entreprise, c'est Supersol. Bonjour Didier Durand.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de cette entreprise qui date de 1948. Et Anissa le disait, elle fait l'actualité parce que nous sommes en plein tournoi de Roland-Garros. Or, la terre cuite de Roland-Garros, c'est vous qui la fournissez.
Tout à fait. La terre battue est fabriquée dans notre usine de Pontpoint dans le 60 et commercialisée sur toute la France et notamment sur le tournoi de Roland-Garros.
Alors à l'époque, au commencement, 1948, c'est la famille Léglise qui crée l'entreprise avec une idée, justement, faire de la terre battue. Ils cherchent un matériau et très vite, c'est la brique qui s'impose.
Tout à fait, oui. Après, donc, la brique est issue de briqueterie, et ce sont des matériaux de recyclage que nous utilisons. Alors, de recyclage de cuisson uniquement, pas de démolition. Donc, avec différentes origines dans la région française. et ensuite c'est transformé dans notre usine de Pontpoint.
Ça signifie qu'on va chercher, on récupère cette terre cuite et on fait des mélanges.
On visite des carrières, on sélectionne nos briques. Et à partir de là, on fait des mélanges pour que ce soit une brique de qualité et un broyage de qualité derrière.
On a toujours le même coloris au sol ?
Tout à fait. Il faut le conserver. C'est la couleur Roland-Garros.
Ça signifie qu'il y a quelque chose d'autre, un secret peut-être. Que vous n'allez peut-être pas révéler ici. Mais on n'a pas simplement de la terre cuite ou de la terre battue sous les pieds quand on est sur le cours de Roland-Garros. Il y a autre chose.
Oui, en dessous, il y a toute une construction d'une surface. Mais la terre cuite est là, elle, uniquement en surface pour donner le glissement du joueur et la coloration de la surface.
Ouais, c'est ce qui fait la spécificité aujourd'hui encore de cette terre battue de Roland-Garros. L'entreprise a changé de main en 2010, c'est le groupe Atalian qui l'a racheté. Les procédés, on l'a bien compris, sont restés les mêmes. Vous n'avez rien changé à la formule initiale.
Du tout.
Et ça fait 20 ans que vous fournissez peut-être même un peu plus la porte d'Auteuil. Il y a même, je crois, avec un partenariat avec la Fédération française de tennis.
Alors aujourd'hui, il n'y a pas de partenariat officiel. Il y a juste une confiance entre notre entreprise et la Fédé pour pouvoir fournir des matériaux de haut de gamme.
Comment on fait ? On la change, cette terre, on la réveille. Elle peut rester combien de temps sur le même cours ?
Alors, elle va rester à peu près une saison. Et tous les ans, les cours sont refaits, remis à neuf. Les cours sont balayés, ensuite décompactés, et ensuite reprofilés et colorés.
Pendant qu'elle est posée à terre, à Roland-Garros par exemple, vous avez-vous des spécialistes qui viennent en prendre soin ? Il y a quelque chose de particulier à en faire ou on la laisse vivre sa vie ?
Non, nous fournissons uniquement la matière et après toutes les mises en œuvre et les travaux sont réalisés par les équipes de Roland-Garros.
Combien de personnes travaillent avec vous chez Supersol sur cette terre battue ?
Supersol, nous sommes une entreprise de 7 personnes.
7 personnes qui sont à la fabrication, qui sont à la pose de la terre ?
Il y a 2 personnes à la fabrication et ensuite 5 personnes qui sont à la construction des cours, puisque nous sommes aussi une entreprise qui fabriquons des cours de tennis.
Oui, c'est assez rare en France, hein. Je crois qu'il n'y en a que 2 aujourd'hui.
On est quasiment la seule entreprise française à fabriquer la terre battue et à construire les cours.
Que dit Sylvain, notre coach de l'aventure Supersol ?
Il y a déjà une question que tu m'as enlevée, Raphaël, mais une autre question, je suis particulier, je rêve d'avoir chez moi, par exemple dans ma cour, la terre battue de Roland-Garros. C'est accessible aux particuliers ?
Sans problème.
Et où ?
Eh bien, il faut nous contacter à notre usine.
Je peux acheter un sac ? Enfin, un sac, la quantité nécessaire.
Un sac, comme vous voulez.
D'accord.
Bon, plusieurs sacs.
Et
même.
Vous venez l'installer ?
Avec plaisir.
Donc, vous vous occupez de tout, en fait. Vous vous occupez de la fabriquer. Parce qu'il y a une manière particulière. Moi, je suis assez curieuse. Hein. J'ai envie de comprendre comment on fait. Comment on fait pour que ça soit si parfait ? Parce que quand on voit les joueurs à l'œuvre, on se dit qu'effectivement, c'est totalement unique.
La terre battue, en fait, en surface, elle est là pour donner une coloration et un glissement. Mais en dessous, vous avez toute une construction d'une surface de jeu qui est très importante, qui est de différentes couches, de différents matériaux. Et c'est là qui va faire un ensemble pour un court de tennis.
Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et c'est là que ça devient intéressant.
Tout à fait.
Anissa.
Alors moi j'ai une petite question pour vous, puisque vous êtes le spécialiste de la terre battue. Quand on joue sur terre battue, qu'on fait un peu de tennis amateur, est-ce que vous avez une astuce pour détacher la terre battue ? Parce que la terre battue, elle a quand même cette faculté à attacher les baskets, les chaussettes, tout, et on en ramène souvent à la maison.
C'est un produit naturel, il faut l'aimer, il faut le garder.
Donc il n'y a pas de solution.
Non.
Bon, on en ramène à la maison.
La suite, c'est quoi pour Supersol aujourd'hui ? Vous avez énormément de partenariats déjà, ou en tout cas de cours de tennis ou d'endroits qui vous font confiance en France. C'est le cas aussi à l'étranger, ou c'est très différent, très compliqué d'aller s'investir à l'étranger ?
Alors c'est très compliqué parce que commercialement c'est du temps et c'est des dépenses. Pour des petites PME comme nous, c'est un peu lourd à supporter. Mais aujourd'hui on développe bien sûr à l'international si on le peut, il n'y a pas de problème.
Il y a d'autres produits que vous imaginez aujourd'hui pour donner vie, longue vie à Supersol ?
Non, aujourd'hui nous notre combat c'est de conserver justement la terre battue et c'est sur notre tradition et jouons sur terre et jouons sur la terre battue. Voilà.
Le tonnage par an, vous en fabriquez combien ?
Nous aujourd'hui on fabrique environ 2000 tonnes de terre battue par an et sachant que sur un court de tennis on va épandre à peu près 1,5 tonne à 2 tonnes de matière pour pouvoir le rougir.
Vous connaissez un peu le secret de la terre battue de Roland-Garros, il ne nous dit pas tout. Merci beaucoup Didier Durand, directeur général de Supersol, d'être venu nous présenter cette entreprise aujourd'hui.
Merci à vous et à très bientôt.
Il est 13h46.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Votre enfant adore les enquêtes, une solution pour peut-être réveiller le détective qui sommeille en lui. C'est la boîte en cavale. À tout de suite sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, tous les jours avant 14h, vous nous proposez la solution du jour. Et alors là, c'est une solution qui va passionner nos enfants.
Ouais, vous m'avez dérangé parce que j'étais en train justement de jouer les Sherlock Holmes. Et si votre enfant aussi a envie de jouer les Sherlock Holmes et de développer sa curiosité, eh bien, c'est possible grâce à la boîte en cavale, Elisabeth.
Mais oui, un matin, votre enfant ouvre la boîte aux lettres et découvre un petit paquet à son nom. Alors ça peut paraître un petit peu étonnant puisque généralement il ne reçoit pas du courrier ou rarement. Et là, il va s'empresser de l'ouvrir, il va plonger dans une intrigue mystérieuse dans laquelle c'est lui qui a été choisi pour intégrer l'Académie des enfants espions. Le bureau Génial. Des enfants espions compte sur lui pour mener des enquêtes et sauver l'univers. Ça vous donne envie ?
Oh oui !
Eh bien justement, nous sommes avec la cofondatrice de la boîte à cavale. Bonjour Margot Bruno.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comment vous est venue cette idée de la boîte à cavale ?
Alors, la boîte en cavale... Pas de problème. La boîte en cavale, c'est une idée qui vient surtout de mon associée Astrid, qui avait lancé un grand jeu... qui s'appelle Histoire en cavale, un jeu d'enquête en réel, en événementiel, de chasse au trésor.
Qui est là, qui est en régie, qui vous écoute.
Astrid qui est en régie. Et en fait, c'est chasse au trésor en réel, c'était super, ça marchait très bien. Elle emmenait les enfants pendant 3 heures dans les buts de Chaumont, menait des grandes enquêtes. Mais il y avait un côté un petit peu frustrant, en fait, à la fin. Au bout de 3 heures, finalement, les enfants ont fini leur aventure. Et c'est toujours les adultes qui ont les aventures des enfants en main. Si vous n'êtes pas un très bon animateur... c'est raté. Et donc, on s'est dit, comment on arrive à donner les clés de l'aventure aux enfants ? Comment on arrive à les rendre autonomes dans leur aventure et dans leur hobby ? Et comment on ramène l'aventure même un mercredi après-midi quand il pleut à Paris ?
Alors, comment ça se passe ? À chaque fois, il y a une énigme différente que l'enfant reçoit tous les mois ?
Oui. Donc, ça fonctionne vraiment sous forme comme un abonnement. Chaque mois, ils reçoivent dans la boîte aux lettres un colis. Et à l'intérieur de ce colis, ils vont avoir de la narration, des illustrations et des beaux objets d'enfants espions.
Je crois, Raphaël, que vous avez une énigme en main, entre les mains.
Alors, pour l'instant, j'ai une pièce à conviction. Mais ma mission, c'est imaginer le visage et le corps de Sœur Conflex, qui est là. Regardez.
Ah,
hop.
Oui. On voit
Sœur
que la
Conflex,
pipe.
Je sens le jeu de mots derrière.
Un peu comme un escape game, pour ceux qui en ont déjà fait. On arrive et on trouve tout un tas d'objets à remettre un petit peu dans le bon ordre pour comprendre l'enquête. On leur explique qu'ils ont été admis à l'Académie des enfants espions et qu'on compte sur eux pour mener une enquête. Pour mener cette enquête, on leur donne tout un tas d'indices, d'objets, et ils doivent nous répondre à l'écrit, par courrier. Donc pour ça, on leur confie un bulletin réponse et une enveloppe préaffranchie. Ils mènent leur enquête et nous renvoient leur réponse pour faire avancer l'enquête. Et le mois suivant, ils reçoivent la suite de l'aventure. Grâce à eux, on a réussi à dénouer une mission et on avance dans notre grande enquête.
On peut voir la boîte là, en direct sur europe1.fr qui intrigue et qui passionne.
Il y a des petits bracelets.
Oui,
il y a des petits objets.
On trouve des illustrations. Ils peuvent décorer la chambre avec, des objets d'espions à collectionner. Ils peuvent même faire des ateliers créatifs. Parfois, c'est ce qu'on trouve dans la boîte.
Ouais, exactement. L'idée pour nous, c'était de stimuler à fond leur créativité et leur imagination. Pour ça, on a choisi un jeu qui est complètement déconnecté des écrans. On n'est pas du tout anti-tech. On pense que c'est génial pour les enfants. C'est juste qu'ils ont aussi besoin d'un endroit coupé des écrans pour pouvoir vraiment libérer leur créativité.
C'est mixte ?
Totalement mixte.
Que dit le coach ? Je crois qu'il a envie de jouer aussi.
Ça coûte combien ?
Ça coûte 19,99€ par mois et c'est sans engagement. Donc en fait, tant que les enfants sont à fond dans leur aventure... On continue l'histoire et le jour où ils décrochent, ils deviennent un petit peu grands pour ce genre de jeu très immersif, etc. On peut arrêter à tout moment. On a des portes de sortie de mission à chaque mois.
Mais comment vous les préparez ces boîtes ? Vous avez des auteurs ?
Qui les invente ?
Comment vous organisez ? C'est quoi les coulisses ?
On travaille depuis maintenant avec une illustratrice et un scénariste. Mais jusqu'à présent, en fait, c'est Astrid qui... illustrait, qui faisait tout le graphisme.
Bravo, Astrid.
De la boîte et on a coécrit toute la première enquête à deux mains. On a lancé du coup la boîte en cavale en décembre Donc,
combien d'abonnés aujourd'hui ?
On a un peu plus de 450 abonnés. Donc voilà, on envoie 450 courriers par mois. Et l'objectif, c'est d'en avoir un peu plus de 2000 à la fin de l'année.
À partir de 7 ans, c'est bien ça ?
À partir de 7 ans.
Ça s'appelle La boîte en cavale. Voilà, vous n'avez plus qu'à réveiller le Sherlock Holmes qui sommeille en vous. Merci d'être venu nous présenter cette Merci. Solution. Merci à Sylvain qui était notre coach aujourd'hui. Nous, on se donne rendez-vous demain. Ce sera une spéciale débarquement.